Chers frères et sœurs, les cantiques que nous avons chantés m'incitent à présenter une petite partie d'un sujet qui est d'une grande beauté dans l'Évangile, mais il n'est pas possible dans le cadre d'une réunion de le présenter dans son ensemble, je ne ferai que d'en présenter la première partie. Les soirs de l'Évangile où le Seigneur est intervenu en faveur des pécheurs et en faveur de nous-mêmes. Il y a 9 circonstances dans l'Évangile, plusieurs sont rapportées dans les 3 premiers Évangiles, d'autres sont rapportées dans les 4 Évangiles. J'aimerais lire ces premiers soirs seulement, pas les 9. Ce serait trop étendu. Premier soir de l'Évangile. Premier soir du ministère d'amour du Seigneur. Luc, chapitre 4. Au verset 40e. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des infirmes atteints de diverses maladies les lui amenèrent, et ayant imposé les mains à chacun d'eux, il les guérit. Et les démons aussi sortaient de plusieurs, criant et disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Et les tensant, il ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Deuxième circonstance, dans l'évangile de Marc. C'est la première tempête, verset 35e. Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35e. Et en ce jour-là, le soir étant venu, il leur dit, passons à l'autre rive. Et ayant renvoyé la foule, ils le prennent dans une nacelle comme il était. Et d'autres nacelles aussi étaient avec lui. Et il se lève un grand tourbillon de vent. Et les vagues se jetaient dans la nacelle, de sorte qu'elle s'emplissait déjà. Et il était lui à la poupe, dormant sur un oreiller. Et ils le réveillent et lui disent, « Maître, ne te mets-tu pas en peine que nous périssions ?» Et s'étant réveillé, il reprit les vents et dit à la mer, « Fais silence, tais-toi. » Et le vent tomba, et il se fit un grand calme, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous ainsi craintifs ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande peur, et ils dirent entre eux, « Qui donc est celui-ci que le vent même et la mer lui obéissent ?» Pour les troisième et quatrième circonstances, nous nous arrêterons à la quatrième. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14. Verset 15, mais nous pourrons lire, l'expression du soir est au verset 15, mais nous pouvons lire le verset 14, qui est d'une grande beauté. Et étant sorti, Jésus vit une grande foule, et il fut ému de compassion envers eux, et il guérit leurs infirmes. Et le soir étant venu, ses disciples vinrent à lui, disant, « Le lieu est désert, et l'heure est déjà passée. » Renvoie les foules afin qu'elles s'en aillent au village, qu'elles s'achètent des vivres. Mais Jésus leur dit, il n'est pas nécessaire qu'elles s'en aillent, vous donnez-leur à manger. Mais ils lui disent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et ayant donné l'ordre aux foules de s'asseoir sur l'herbe, ayant pris les 5 pains et les 2 poissons, il regarda le ciel et bénit, ayant rompu les pains, il les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Et ils mangèrent tous, et furent rassasiés. Et ils ramassèrent des morceaux qui étaient de reste 12 paniers pleins. Or ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et aussitôt, il contraignit les disciples de monter dans la nacelle et de le précéder à l'autre rive, jusqu'à ce qu'il eût renvoyé les foules. Et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier. Et le soir étant venu, il était là seul. Or, la nacelle était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire, et à la quatrième veille de la nuit, il s'en alla vers eux, marchant sur la mer. Et les disciples, voyant marchant sur la mer, furent troublés, disant, c'est un fantôme. Et ils crièrent de peur. Et Jésus leur parla aussitôt, disant, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez point de peur. Et Pierre, lui répondant, lui dit, Seigneur, si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Et il dit, viens. Et Pierre, étant descendu de la nacelle, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et qu'il commençait à enfoncer, il s'écria, disant, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt Jésus, étendant la main, le prit et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la nacelle, le vent tomba, et ceux qui étaient dans la nacelle vinrent, et lui rendirent hommage, disant, « Véritablement, tu es le Fils de Dieu. » Quelques remarques sur ces quatre premières circonstances qui se passent le soir dans les évangiles synoptiques. Les quatre premiers soirs de l'évangile, quand le soir est venu, quand le soleil baisse, les quatre premières soirs sont en relation avec l'amour du Seigneur pour les siens. Et dans ces quatre premiers soirs, il y a toujours trois éléments. D'abord, l'obscurité qui étend son voile sur la terre, le soleil qui se couche, le jour qui baisse, la nuit qui étend ses voiles. C'est la première chose. Puis, lié à l'obscurité et à la nuit, il y a une circonstance affligeante, une circonstance qui exerce le cœur du Seigneur, le cœur des disciples, le cœur des foules. Dans les quatre soirs que nous avons examinés déjà par la lecture de l'Écriture, il y a donc quatre circonstances, cela forme le premier groupe. La première circonstance, c'est la maladie. La maladie. La deuxième circonstance, c'est l'amour du Seigneur pour la foule affamée. Et il donne à manger. Et la circonstance suivante, c'est la tempête. Mais il faut bien prendre garde qu'il y a deux tempêtes, et c'est pour cela que nous avons quatre soirs. La première tempête dans la vie du Seigneur se situe entre la guérison des malades, que nous avons lu dans Luc, et le rassasiement de la foule, que nous avons lu dans Matthieu. C'est la première tempête dans Marc 4. Après que la foule a été rassasiée, il y a une quatrième circonstance, ce n'est plus le rassasiement de la foule, mais c'est la seconde tempête. Et si nous essayons de résumer cette introduction, nous avons donc le soir, la maladie. Le soir et la tempête et le Seigneur dort. Le soir et la foule qui a faim et il n'y a pas de ressources. Le soir est la deuxième tempête et on ne reconnaît pas le Seigneur marchant sur les flots. C'est les quatre premiers soirs de l'Écriture qui sont d'une grande beauté dans l'ensemble et dans les détails. Je citerai Simplement que dans la suite, nous avons d'autres soirs dans l'Évangile, mais qui sont en relation avec le Seigneur lui-même. Je ne veux pas les énumérer pour ne pas charger la mémoire, mais je citerai simplement que les trois soirs qui suivent, les quatre que nous avons lus, se rapportent à la souffrance du Seigneur. Par exemple, la trahison de Judas se produit le soir. Et puis, la descente de la croix et la mise au tombeau du Seigneur se produit aussi le soir dans l'obscurité qui naît. Mais il y a deux circonstances triomphantes après la résurrection qui se produisent le soir. Il y a la marche vers Emmaüs, reste avec nous le soir abaissé. Le jour efface sa lumière, les ombres du soir s'étendent, reste avec nous Seigneur. Et il entra pour rester avec eux. Puis il y a le dernier soir qui est en quelque sorte le couronnement de tous ceux que nous avons mentionnés. Je pense que plusieurs frères et sœurs ont vu quel était ce dernier soir. C'est encore avec le Seigneur ressuscité quand on est réunis autour de lui dans la crainte. Et les portes sont fermées et le Seigneur apparaît, c'est le soir, la nuit est en son voile. Et dans ce dernier soir, il y a deux choses. Il y a deux fois répétées dans Jean 20, « Paix vous soit ». C'est la voix du Seigneur dans le rassemblement des saints, « Paix vous soit ». Combien nous avons besoin d'entendre cette voix du Seigneur dans le rassemblement. Et puis, il y a autre chose, il y a un geste dans ce dernier soir de la vie du Seigneur ressuscité sur la terre. Il leur montra ses côtes, son côté et ses mains percées. Il y a une parole et il y a un geste. Et les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Ce n'est pas les circonstances dans une assemblée qui nous rendent heureux dans l'assemblée. Il y a des amis qui se plaignent de ci, qui se plaignent de ça dans le rassemblement des saints, et peut-être c'est tout à fait juste ce qu'ils disent. Mais ce n'est jamais à cause des circonstances, si florissantes qu'elles soient, que nous sommes heureux dans l'assemblée. Sans doute que quand l'assemblée est prospère, il y a une joie qui est due à cette prospérité même. Mais la source de la joie dans le rassemblement, c'est la présence du Seigneur. Les disciples se réjouirent donc quand ils virent le Seigneur. Alors, c'est ce sentiment de la présence du Seigneur qui est notre joie dans le rassemblement. Et quand on perd ce sentiment de sa présence, notre joie tarit. Et ce qui fait que dans des circonstances même pénibles, on peut quand même se réjouir, c'est que le Seigneur est là, source de la joie. Dans ses mots, paix vous soit, il est au-dessus de tout. Paix vous soit deux fois. Et dans ce geste répété, il leur montra son côté et ses mains percées. Alors on se rappelle ce que le Seigneur a fait, et c'est aussi une source de joie. Nous avons donc ce second élément qui est une circonstance affligeante, mais aussi ce troisième élément qui est la présence du Seigneur qui irradie la lumière et la paix dans les circonstances les plus sombres et les plus tristes qui nous sont mentionnées dans l'Évangile. Et ces trois choses sont d'une extrême beauté. Le soir, la circonstance douloureuse, tout semble perdu. Et voilà le Seigneur. Et tout s'illumine, et la clarté renaît, et la réalisation pratique de cet admirable passage de Zacharie se trouve déjà dans l'Évangile, et au temps du soir, il y aura de la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il brille dans l'obscurité la plus profonde quand le soir a étendu ses voiles. Quelques mots maintenant sur ces quatre premières occasions. Paul en Galilée, c'est tout au début, n'est-ce pas, dans Luc 4, Et si nous lisions le passage parallèle dans Marc et dans Matthieu, parce que ce beau récit de Luc 4 se trouve dans les trois premiers évangiles, avec des différences, mais notre intention c'est simplement d'insister sur ce premier soir de l'évangile, il se déroule en Galilée. Cette Galilée qui était si méprisée, et ce n'est pas pour rien que ce premier soir soit un soir sur la partie nord du pays. Galilée rappelle à nos cœurs des noms très doux, c'est Nazareth où le Seigneur a été élevé, c'est Cana de Galilée où il a accompli le premier de ses miracles lors d'un mariage, c'est Capernaum parce que la scène que nous avons lue, c'est Capernaum. Il y a encore d'autres villes et villages de la Galilée qui ont été visités par le Seigneur de gloire et qui ont eu l'insigne bénéfice de cette présence. Nazareth, où il a été élevé, Cana, où il a fait le premier de ses miracles, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, dit le Seigneur. Et ce que nous avons lu là, fait partie de cette expression, « Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras baissé jusque dans le Hadès. » Car si les miracles qui ont été faits chez toi eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. Capernaum est un lieu privilégié. Mais ce qui nous touche, n'est-ce pas, dans nos affections pour le Seigneur, pour cette personne si belle qui irradie cette beauté et cette lumière et cet amour, c'est qu'il ait voulu commencer son ministère de grâce en Galilée. Peuple méprisé, région méprisée par les Juifs. Quand Nicodème, devant les pharisiens, dans le chapitre 6 de Jean, c'est une scène saisissante, quand Nicodème a voulu prendre parti pour le Seigneur, et il a été courageux, puisqu'il était un des pharisiens, et qu'il leur a dit, notre loi permet-elle de condamner un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait, sans savoir ce qu'il fait. Et là, c'est ce que le Seigneur fait en guérissant les malades. Et nous savons ce qui lui a été répondu à Nicodème. Mais est-ce que tu connais la Galilée? Est-ce que tu ne sais pas qu'un prophète ne peut pas être suscité en Galilée? Enquière-toi, tu verras, on lui répond cela devant le Sanhédrin. Dans Jean 6. Enquière-toi et sache qu'un prophète n'est pas suscité en Galilée. Et c'était précisément en Galilée que le Seigneur a commencé son ministère d'amour. Dans ce premier soir, dans ce pays si calme de la Galilée, à Capernaum, dans ce premier soir, c'est le soir de la guérison. Mais comme le Seigneur connaît les plaies de l'humanité dans ce premier soir, il est dit, n'est-ce pas, qu'il a guéri des malades, et il est dit aussi une parole magnifique, elle est démoniaque, et c'est Matthieu, sauf erreur, qui dit cela, et tous ceux qui se portaient mal. À Capernaum, au début de son ministère d'amour, dans cette Galilée méprisée, le Seigneur lui-même le méprisait, a accompli une œuvre bienfaisante, pour tous ceux qui se portaient mal. Tous. Et nous avons donc les plaies physiques et les plaies morales. Il y avait des malades qui, dans leur corps, souffraient. Mais ces démoniaques, c'était des gens tourmentés dans leur âme. Hélas, les démoniaques. Combien d'âmes tourmentées de nos jours. Combien d'âmes dépressives. Combien d'âmes accablées. Ah, le Seigneur allait se mettre au cœur de la misère humaine dès le début de son ministère. Et si aujourd'hui les médecins nous répètent si souvent qu'ils n'ont rarement vu une époque où il y ait tant d'âmes accablées, lassées de la vie, dégoûtées d'exister, et c'est une plaie de notre temps, c'est incontestable, qui est le résultat peut-être de notre vie, mais enfin les faits sont là. Quand le Seigneur a commencé son ministère d'amour, il s'est placé d'emblée, dès le début de son ministère, au cœur de notre misère. Voilà le mépris pour la Galilée. Voilà la maladie des corps, les démoniaques, la maladie des âmes, et le soir. le soir qui s'étend sur Capernaum. Il a déjà guéri le Seigneur avant que le soir tombe, il a déjà guéri la belle-mère de Pierre. Et maintenant que le soir a étendu ses voiles, voilà le Seigneur qui guérit tous ses malades. Et dans Matthieu, dans la même scène, il est cité Esaïe, il a pris nos langueurs et il a porté nos maladies. Et quand nous pensons à nos chers malades, nous aimerions pouvoir évoquer pour eux, et si le Seigneur nous atteint par la maladie, nous demandons au Seigneur d'avoir cette vision magnifique de ce soir qui tombe sur Capernaum, ville qui a été élevée jusqu'au ciel, de cette misère humaine, mais qui apparaît sous toutes ses formes, du Seigneur qui, d'entrée dans son ministère, se place au cœur de cette misère humaine, et qui illumine tout par sa présence, les ombres du soir enfuient, le Seigneur est là, il apporte la guérison, il a la santé sur ses ailes, selon l'expression de l'Ancien Testament, et voilà le travail d'amour de celui dont Nicodème a dit, avons-nous le droit de le condamner sans savoir ce qu'il a fait, sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il a fait, et dont les pharisiens ont dit, peut-il venir quelque chose de bon de la Galilée? Voilà pour ce premier soir, il y aurait d'autres marques à faire, mais j'aimerais passer rapidement au second soir qui se trouve également dans les quatre premiers évangiles, mais ce second soir est mentionné comme soir seulement dans Marc. C'est la première tempête. Il y a dans le soir qui tombe pour l'homme, pour la nature tout entière, il y a le moment du repos. Le soir amène le moment du repos. Et lié à ce soir qui s'étend, il y a l'idée de la journée achevée et de l'ouvrier qui a besoin de son repos. Et le Seigneur, comme son activité ne l'exige pas, parce que le Seigneur a passé des nuits sans dormir, il a connu ce que l'apôtre Paul s'est imposé lui-même, des veilles. Il est dit, il passa toute la nuit à prier Dieu avant de choisir ses disciples dans l'évangile de Luc. Mais ici, voilà que le soir arrive et qu'il dispose d'un moment de repos. Il va disposer d'un moment de repos, mais ce repos, il ne le prend pas tout seul. Il le prend avec ses disciples dans la nacelle. Si bien que l'idée du soir ici est liée à l'idée du repos que le Seigneur prend. Ni le voile de la nuit, ni les vagues qui font furie et qui remplissent la nacelle, ni les vents qui forment un tourbillon, rien ne peut troubler le Seigneur. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les vagues, il a créé les vents. Il a créé le jour, il a créé la nuit, le soir descend, le Seigneur dort tranquille dans la nacelle. Mais ce sur quoi j'aimerais insister, c'est l'attitude des disciples auxquels nous ressemblons si souvent quand nous avons des choses difficiles dans nos vies et dans nos familles. Mais ne te mets-tu pas en peine de ce que nous périssons? Le Seigneur dort, les disciples s'affolent, ils veulent le réveiller et ils le réveillent. Le Seigneur dit un mot, il fait taire les vagues, il fait taire les vents. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas conduire ses disciples dans cette nacelle battue par les vagues jusqu'à l'autre rive alors qu'il a dit positivement le Seigneur, passons à l'autre rive. Et l'usage que l'on a fait de ce récit de la première tempête, l'application que l'on en a faite est extrêmement intéressante, n'est-ce pas? On peut comparer la vie à une longue traversée. Il y a une nacelle. Nous sommes dans cette nacelle. Le Seigneur est avec nous. Il nous a dit, passons à l'autre rive. Nous arriverons sur l'autre rive. Même si les vagues se sont déchaînées, même si les vents se sont déchaînés, nous arriverons sur l'autre rive parce que le Seigneur a dit, passons à l'autre rive. Et quand le Seigneur l'a dit, il nous y conduira. Nous ne voulons pas nous attarder sur ce deuxième soir sur la mer de Tibériade, mais il y a quand même quelque chose. C'est le soir, non pas de la maladie, mais c'est le soir de notre incrédulité. Le soir de notre incrédulité. On met en doute la puissance du Seigneur en notre faveur. Gens de petite foi. Ah, combien pouvons-nous dire au Seigneur, augmente-nous la foi, pour que nous sachions que c'est toi qui es dans la nacelle avec nous, et même s'il paraît dormir, dans son sommeil même, il est plein de sollicitude pour les siens, et nous arriverons à l'autre rive. Il y a un beau verset de cantique fait par un de nos frères du début, ces frères pieux dont toute la joie était le Seigneur et la parole. Bientôt pour moi le terme du voyage, l'autre rive amènera le moment du repos et du Seigneur l'assuré témoignage me gardera contre les grandes eaux. Quelle belle expression, n'est-ce pas, de l'amour du Seigneur qui est dans la nacelle avec nous et qui paraît parfois ne pas se préoccuper de notre situation, mais qui, tout en se reposant, est plein de sollicitude pour nous. La troisième et la quatrième occasion, je n'en dirai que quelques mots parce que je crois que ce sujet a été présenté déjà il n'y a pas longtemps, mais cette troisième occasion que nous trouvons dans les trois évangiles, dans les synoptiques, c'est donc la fin. Cette fois, c'est la fin. Et nous avons éprouvé quand le Seigneur dit « Vous donnez-leur à manger ». Nous avons autour de nous des âmes affamées et assoiffées qui n'en savent pas où se tourner, n'est-ce pas? Ah, il y en a, surtout dans les circonstances actuelles, parce que quand les choses vont mal, les hommes commencent à réfléchir. Alors le Seigneur nous dit, vous donnez-leur à manger. Et puis, c'est le soir de notre insuffisance, de notre incapacité. C'est le soir où l'on n'a rien à donner à manger. Et il y a peut-être eu des circonstances que nous avons vécues où nous avons été tellement malheureux et tellement maladroits pour parler du Seigneur et pour présenter sa parole que nous nous sentions absolument comme les disciples en disant il vaudrait mieux renvoyer ces gens plutôt que nous occuper d'eux. Ah, si nous avions fait comme le Seigneur nous incite à le faire lorsqu'il prend ses disciples vers lui, qu'il prend les cinq pains et les deux poissons, il n'a pas regardé ces foules affamées, il a regardé vers le ciel, il a rendu grâce dans ce soir qui tombait, il a multiplié la nourriture, et dans sa grâce insondable, il n'a pas voulu la donner lui-même aux affamés, il la donne aux siens pour que les siens la distribuent aux affamés. Un frère écrivant sur ce passage dit « Si nous savions participer à la puissance de Christ », quelle belle expression, participer à la puissance de Christ. Participer à la puissance de Christ, c'est être près de Christ pour qu'il nous communique ce qu'il faut pour répondre aux besoins de ceux qui nous entourent. Et souvent nous nous sentons très maladroits, et souvent nous n'avons pas la parole à propos vis-à-vis des incrédules, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de ceux qui souffrent. Parce que nous craignons de ne pas dire ce qui convient, n'ayant pas connu les mêmes expériences que ceux auxquels nous nous adressons. Et le Seigneur nous dit, vous donnez-leur à manger, répondez à ses besoins. Alors il faut être tout près de lui pour qu'il nous communique la parole qui doit être dite. Le soir suivant, c'est le soir de la seconde tempête. Mais j'aimerais simplement dire ceci, c'est que dans Matthieu 14, n'est-ce pas, il est dit au verset 23, et quand il eut renvoyé les foules, il monta sur une montagne à l'écart pour prier, et le soir étant venu, il était la seule. Cette fois, ce n'est plus le Seigneur dans la nacelle, comme lors de la première tempête, c'est le Seigneur sur la montagne, qui prie pendant que les siens luttent contre les vagues sur la mer. C'est donc deux scènes tout à fait différentes. Dans la première tempête, le Seigneur dort dans la nacelle avec ses disciples. Dans la seconde tempête que nous avons ici, le Seigneur prie pour ses disciples, lui, sur la montagne, comme Moïse élevait ses bras sur la montagne de Hor pendant que les fils d'Israël luttaient dans la plaine. C'est donc l'intercession de Christ quand le soir descend et l'intervention de Christ pour les siens qui sont dans la peine au moment voulu. Il y aurait beaucoup à dire sur cette deuxième tempête, mais nous savons qu'il y a deux choses qui ont fait que le Seigneur s'est révélé aux siens. La première, c'est qu'il leur a parlé, « C'est moi, n'ayez point de peur. » Puis, il a manifesté sa puissance, et c'est souvent ce qui se produit pour nos frères et nos sœurs dans l'épreuve, c'est que dans l'épreuve même, c'est difficile de voir la main du Seigneur. On est seul dans la nacelle, on est seul contre les vagues. Puis on se demande si le Seigneur s'occupe de nous, n'est-ce pas? Mais il est sur la montagne seul et il prie pour les chiens qui luttent. Et puis c'est après, même si le Seigneur intervient dans une épreuve très longue et difficile, on ne reconnaît pas tout de suite le Seigneur. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé cela? Et puis le temps coule, et puis après seulement, on le reconnaît, comme ici, quand on a entendu sa voix et qu'on l'a vu, on le reconnaît. Voici, chers frères et sœurs, ces quatre premiers soirs, il y en a encore cinq autres dans l'Évangile, mais tout cela met en valeur la radieuse beauté du Seigneur. Quelle grâce Dieu nous a faite de connaître ce Sauveur. Le soir descend, l'ombre s'étend, la circonstance est accablante, le Seigneur vient, tout est transformé.